Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée à l'Atlas de la biodiversité mis en place récemment sur le Val d'Amboise. L'idée de cet atlas est de faire un inventaire des milieux et des espèces présentes sur nos communes, ce qui nous donne donc l'occasion de réaliser en partenariat avec la communauté de communes du Val d'Amboise une série d'émissions pour partir à la découverte de la biodiversité de notre territoire. Pour cette première émission, je suis en compagnie de Philippe Degnaud, vice-président délégué à la transition énergétique et à l'environnement au sein de la communauté de communes du Val d'Amboise. Bonjour.
Bonjour.
Également avec Thomas Boucard, chargé de mission développement durable au sein de la communauté de communes du Val d'Amboise. Également, bonjour.
Bonjour.
De Natacha Griffaud, chargée mission chiroptère au sein de la LPO Centre-Val-de-Loire, donc Ligue pour la protection des oiseaux, puisque la LPO est impliquée dans l'inventaire des espèces et notamment des chauves-souris dont on va parler aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous sommes aussi en compagnie d'Olivier Ferris, habitant du Val d'Amboise, de Saint-Ouen-les-Vignes précisément, propriétaire d'un terrain sur lequel des inventaires seront faits, ce qui vous donne le titre de référent Atlas de la biodiversité. Bonjour.
Bonjour.
Alors dans cette première émission, on va expliquer ce qu'est un atlas de la biodiversité, à quoi il sert, comment il se met en place sur le territoire, comment les habitants peuvent justement s'impliquer. On parlera du premier inventaire qui concerne donc les chauves-souris, l'occasion donc d'en savoir un peu plus sur cet animal pour le préserver peut-être un peu plus sur le territoire notamment. Alors Thomas Boucard, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est un atlas de la biodiversité communale ?
Alors, je vais essayer de faire simplement, mais l'objectif d'un atlas de biodiversité, c'est d'améliorer la connaissance du vivant sur un secteur géographique. Donc là, il s'agit de la communauté de communes. En général, c'est plutôt des zones communales. Là, c'est un choix qui a été fait de faire un atlas biodiversité intercommunal, donc avec 14 communes. Et voilà, l'objectif, c'est de vraiment mieux connaître la faune, la flore, les habitats sur le territoire pour mieux les protéger.
Alors à quoi ça sert, même si on comprend que c'est pour mieux préserver, quel est l'intérêt pour un territoire de se doter d'un atlas de la biodiversité ?
Nous, ça va nous permettre de cibler les enjeux, les espèces à enjeu, les habitats à enjeu, et ensuite de pouvoir associer des mesures de protection adaptées pour prendre en compte ces enjeux dans les opérations d'aménagement, le développement du territoire par exemple.
Alors j'imagine que c'est important aussi d'avoir une collecte, un archivage de tout ce qui va être fait pour un territoire. C'est une richesse aussi cette collecte, peut-être cet inventaire.
Bien évidemment. Alors déjà, nous bénéficions d'environ 130 000 données donc, sur ce territoire. Nous ne partons pas de rien, mais nous voulons donc, au titre de cette observation, de cette démarche, enrichir notamment cet atlas ou cet inventaire, selon comment on l'appelle.
Oui.
Et puis finalement impliquer tous les acteurs locaux et sensibiliser les élus sur les enjeux environnementaux.
Alors justement, on parle d'inventaire. Comment est-ce qu'on réalise un inventaire ? On va en parler sur un territoire. Comment ça se déroule ? Comment est-ce que... Quel est le procédé ?
Thomas, peut-être ?
Moi, je peux vous parler du procédé de l'Atlas, mais
oui.
Les inventaires, ce sera plutôt les naturalistes qui pourront en parler mieux que moi. On a plusieurs volets. En fait, c'est une démarche en quatre volets. Il y a d'abord, on regarde d'abord ce qui a déjà été fait sur le territoire. Donc, il y a toute une phase bibliographie, analyse des données existantes. Et puis ensuite, on va cibler des secteurs à inventorier pour démarrer cette deuxième phase d'inventaire qui est la plus importante, qui va nous occuper durant les deux années de la démarche. Et puis, il y a également une phase préconisation. Donc, il y aura des préconisations de gestion qui seront associées au résultat des inventaires. Et puis, il y a aussi une phase importante de sensibilisation et d'animation auprès de tous les publics.
Mmh. Alors, je crois que c'est un inventaire qui va se dérouler en deux temps sur deux parties du territoire, parce que c'est compliqué peut-être d'inventorier sur tout un territoire qui est assez grand, mine de rien.
Oui, c'est ça. On a quand même 14 communes. Alors, il y a des intercommunalités plus grandes, mais l'idée, c'était de diviser en deux. C'est-à-dire, on fait 7 communes la première année et 7 communes la deuxième année.
Alors, par quelle, justement, partie du territoire est-ce que vous avez commencé ?
Alors, deux têtes. Les communes, les premières communes,
ce sera
Limeray,
oui.
Montreuil-en-Touraine, Nazelles-Négron,
ouais.
Rouillé-le-Lierre, Noisé, Possé-sur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes.
D'accord, donc ça, ce sera un inventaire qui va se dérouler, donc qui a commencé jusqu'à quand à peu près ?
Alors, c'est un inventaire qui va commencer la semaine prochaine,
ouais.
En tout cas sur le terrain, et qui va se dérouler à peu près jusqu'à l'automne.
Et ensuite, on passera au deuxième groupe, en fait, si j'ose dire, à deuxième partie du territoire, pareil.
Oui, en début d'année. L'idée, c'est de couvrir les quatre saisons pour les deux parties du territoire.
Alors, par quoi est-ce que comment va commencer cet inventaire? Qu'est-ce qui va être répertorié en priorité?
Alors, on va peut-être laisser la
sont donc les chauves-souris.
À Natacha, ce sont les chauves-souris, la famille des chiroptères.
Oui, c'est ça, les chiroptères et pas les chiroptères, d'ailleurs.
C'est pour ça.
Donc, on va commencer par les chauves-souris parce que en fait, il y a un inventaire hivernal à faire quand elles sont notamment en hibernation dans les caves. Donc, c'est pour ça qu'on commence par ce groupe-là.
Alors, sur combien de temps, justement, va se faire cet inventaire?
Toute l'année, en fait. On va vraiment la commencer la semaine prochaine pour recenser les chauves-souris dans les caves. Et après, on partira plutôt sur la saison estivale où les chauves-souris se regroupent en colonies de mise bas. Donc là, on va faire un suivi l'été et on va réaliser en plus des inventaires acoustiques pour étudier en fait les différentes espèces qui vont être en plein vol, en fait, en train de chasser par exemple, ou rejoindre des territoires de chasse la nuit.
Alors comment on réalise un inventaire? Vous ciblez des endroits particuliers? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le procédé, en fait?
Oui, alors là, ça fonctionne un petit peu pour tous les taxons, on va dire. Donc, on a au début un travail de cartographie où on va cibler les zones qui nous paraissent plus intéressantes. Donc, évidemment, ça va être les zones qui sont plutôt naturelles. Les zones urbanisées sont moins intéressantes, hein, qu'on parle de faune ou de flore, évidemment. Et puis après, en fonction du groupe, par exemple, les chauves-souris, on va cibler tout ce qui est massif forestier, les vallées aussi, là où il y a pas mal de cavités. Hein, en Indre-et-Loire, le long de toutes les vallées, on a des caves. Et aussi, la particularité pour les chauves-souris, ça va être qu'on a des chauves-souris qui vivent en bâtis durant l'été. Donc là, ça va être les bâtiments qui ont encore des greniers, accessibles. Donc par exemple, les châteaux, les moulins, d'anciennes bâtisses. Ça peut être aussi des bâtiments communaux, comme les combles des églises, par exemple, des greniers de mairie ou d'école.
Alors, est-ce que le but, c'est de compter combien d'espèces existent sur le territoire, ou alors justement de se dire qu'il y a plusieurs espèces au sein de... Enfin, dans le chauve-souris, il y a plusieurs catégories. Comment l'inventaire, en fait?
L'idée, ça va être d'en trouver le plus possible en termes de diversité d'espèces, surtout. En Indre-et-Loire, en général, on a 23 espèces de chauves-souris.
D'accord.
Sur le territoire. Donc là, évidemment, ça va être de trouver le maximum d'espèces sur toutes ces communes. Et puis, évidemment, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de trouver des regroupements de chauves-souris. Donc, par exemple, dans des anciennes carrières, il y a beaucoup de place, donc il peut y avoir... d'importants regroupements de chauves-souris. Et puis dans les bâtiments, on peut avoir des nurseries, donc les femelles qui se rassemblent pour élever leurs jeunes. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse, vraiment trouver les endroits où il y a beaucoup de chiroptères et puis identifier les espèces et pouvoir les dénombrer.
Mmh. Alors là, on commence par les chiroptères, mais je crois qu'il y a plusieurs familles, plusieurs domaines, plusieurs catégories d'inventaires. Quels sont-ils en gros, pour qu'on ait une idée?
Concernant les mammifères, il y a les chauves-souris qui sont un peu à part, puisqu'un peu à part comme mammifères. Et il y a aussi la catégorie des mammifères de façon générale. Il y a les oiseaux, bien sûr. Il y a un groupe herpétologie, donc c'est-à-dire amphibiens, reptiles. Il y a un groupe sur la flore et les habitats. Mm-hmm. Et puis ensuite, ça va être différents groupes sur les insectes. Mm-hmm. Donc on va avoir les odonates, qui sont en fait les libellules. Les rhopalocères, qui sont les papillons de jour. Et les orthoptères, qui sont les sauterelles, les grillons.
Alors,
et j'en oublie un,
pardon. Allez-y.
Les coléoptères et les insectes qu'on dit saproxyliques, c'est-à-dire qui sont inféodés au bois mort.
Mm-hmm. Alors tout ça demande justement la participation de différentes associations, hein, comme c'est le cas pour la LPO. Quelles sont les autres associations avec lesquelles vous allez travailler? Parce que c'est un travail collectif, hein, c'est un travail commun.
Oui, c'est assez inédit d'ailleurs. On a 5 associations qui nous accompagnent, 5 organismes, dont effectivement la LPO Centre-Val de Loire, la CEPANT qui agit localement aussi sur le territoire, Codalis, Légéria Nature et puis
le CPIE.
le CPIE Touraine-Val de Loire.
C'était important justement aussi pour la LPO de participer à ce travail d'inventaire.
Oui, nous, ça permet d'améliorer les connaissances sur le territoire et puis d'accompagner les collectivités pour une meilleure prise en compte de cette richesse. Évidemment, après, nous, on a quand même l'habitude de travailler entre associations, de partager, de se répartir les secteurs, etc. Mais c'est vrai que là, c'est aussi assez exceptionnel de travailler sur un même projet à 5 associations, mm-hmm. à 5 structures. Mm-hmm. Donc, ça permet aussi de pouvoir couvrir plus de communes et de faire les inventaires de plusieurs taxons. Voilà. Oui. Chaque association, chaque structure en fait a ses spécialistes. On n'a pas tous les mêmes connaissances, donc c'est d'autant plus enrichissant.
Alors justement, l'idée de cet inventaire, c'est justement de se rendre compte de ce qu'est la biodiversité. Une biodiversité qui est riche, notamment hein, sur le territoire peut-être. Un mot justement sur la biodiversité pour rappeler ce que c'est, parce que des fois...
Alors là encore, ce sera plutôt les naturalistes qui pourront vous répondre précisément, mais la biodiversité, c'est la diversité du vivant, mm-hmm. sous toutes ses formes, les espèces, les milieux, les écosystèmes et les liens qu'ils entretiennent entre eux. Effectivement, elle est plutôt riche sur le Val d'Amboise, enfin, on le sait déjà sans passer par l'Atlas, puisqu'on a des grands domaines naturels comme la Loire, comme la forêt d'Amboise... Les coteaux qui sont assez riches aussi en orchidées, par exemple. Mm-hmm. Alors, on a déjà des connaissances qui nous permettent de dire que oui, le territoire est intéressant à plusieurs titres.
Donc,
un territoire peu urbanisé, hein, principalement agricole, mais comme rappelait Thomas, couvert de forêts et traversé par de nombreux cours d'eau et de vallées. Donc autant de lieux propices à l'observation et à la présence d'espèces qu'on souhaite nombreuses. Alors, l'Atlas de la biodiversité n'a pas pour vocation de trouver des espèces rares. Mmh. Hein. Bon, s'il y a une découverte, on sera tous satisfaits, mais surtout de voir effectivement comment le vivant et le plus petit peut vivre dans notre environnement déjà chargé en termes d'activité, de présence humaine et d'activité agricole ou voire même zone d'activité.
L'idée aussi, j'imagine, c'est de se rendre compte de l'écosystème, parce que ça, c'est un mot qu'on a peut-être tendance à oublier, mais à un moment donné, est-ce que ce travail permet aussi de resensibiliser la population sur ça, sur l'écosystème ?
Oui, évitons de faire des blancs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est apporter une nouvelle connaissance et une prise de conscience auprès de la population que cet écosystème est extrêmement fragile et qu'il dépend tout à fait de notre présence et de nos activités. Donc on a tendance à l'ignorer parce que c'est notre quotidien. Nous allons d'une ville à l'autre, d'un lieu à un autre, sans se préoccuper finalement de tout ce qui nous entoure et de cette fragilité. Donc l'Atlas de la biodiversité sera l'occasion finalement de cette sensibilisation qui sera nourrie d'une animation auprès de tous, hein, de tous les publics. Donc c'est un volet que l'on souhaite mettre en avant, du moins ne pas négliger.
Donc c'est aussi prendre en compte, j'imagine, les spécificités d'un territoire en termes de biodiversité pour mieux l'aménager, du coup, pour mieux respecter.
Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Donc l'information de la population, l'information large, et puis après, effectivement, l'outil ce que nous ferons de cet outil, notamment au niveau des élus, sur les aménagements futurs, hein, en termes d'urbanisme ou d'activité économique. J'espère, ça je l'appelle de mes voeux, que effectivement ça ne sera pas simplement donc un inventaire qui restera dans les tiroirs, mais qui servira effectivement à notre réflexion d'élus sur les projets futurs.
Des mesures peuvent être prises, j'imagine, à la suite peut-être de cet inventaire.
Un certain nombre de préconisations hein, seront donc faites à l'issue de cet atlas. À nous de nous en emparer, de les comprendre, de les partager, et puis effectivement de faire en sorte que certains secteurs dits sensibles, ou qui pourraient devenir sensibles du fait d'urbanisation, qu'on appréhende la question de la biodiversité au premier niveau, et que ce soit effectivement un guide pour les élus.
Alors les habitants sont aussi amenés à participer, hein. On parlait d'un travail collectif avec les associations en lien avec la nature, mais aussi les habitants. De quelle manière est-ce que les habitants peuvent s'impliquer dans ce projet ?
De différentes manières. Il y en aura plusieurs tout au long de la démarche.
Oui.
La première, là, c'est celle dont on peut parler, c'est celle sur les inventaires chiroptères, donc du coup des chauves-souris.
Oui.
Là, il y a un appel à manifestation, si on peut dire. Mm. En tout cas, les personnes qui auraient connaissance de colonies de chauves-souris chez elles, dans une cave, des combles, un grenier, sont invités à le signaler à leur mairie, donc les mairies du groupe 1 qu'on a cité tout à l'heure,
ouais.
Pour ensuite être mis en relation avec donc Natacha qui est là ce soir, pour que des inventaires puissent être faits du coup chez ces personnes.
Alors, vous, monsieur Olivier Ruiz.
Ferris,
pardon. Vous êtes donc habitant de Saint-Ouen-les-Vignes et vous participez aussi à ce projet. Vous êtes même ambassadeur, expliquez-nous.
Ambassadeur, c'est un grand mot, non, référent.
Oui, référent.
Je suis chargé avec trois autres référents d'accompagner les associations hein, dans leur recherche, ainsi que.
Mais en tant qu'habitant
Je suis propriétaire de caves et donc j'avais remarqué, ça fait 10 ans que j'habite ici, et j'avais remarqué dès le début qu'il y avait des chiroptères dans mes caves. Alors je suis allé voir hier matin, j'en ai vu qu'un exemplaire, malheureusement, j'étais un peu déçu, parce qu'en fait, j'y allais de temps en temps, mais souvent j'en voyais 4 ou 5 qui étaient pendus au plafond, quoi. Et là, j'en ai pas trouvé beaucoup. Bon, alors par contre, l'été précédent, on a aménagé un grenier en chambre, et en plein été, il faisait très chaud. Et à un moment donné, il y a 5 chauves-souris qui tournaient autour de nous, quoi. Voilà. Donc il y a des chiroptères dans notre petit coin. Donc j'étais intéressé pour que ce soit répertorié, quoi.
Alors,
pour les protéger.
Alors du coup, lorsque l'on peut remarquer la présence de chauves-souris, par exemple, chez soi, on vous contacte, mais est-ce qu'il y a aussi des zones qui sont particulièrement soumises à l'inventaire, et dans ce cas-là, il vous faut l'autorisation peut-être des propriétaires pour pouvoir répertorier ? Comment ça se passe ?
Peut-être Natacha, voilà.
Quand ça appartient à des particuliers, on essaye de prendre contact avec eux, donc on voit avec les mairies, effectivement, pour voir s'il est possible d'accéder à leur parcelle ou à leur bâtiment.
Si je peux ajouter quelque chose, plus précisément ce qui va être fait là, il y a un courrier qui va être adressé aux différents propriétaires de parcelles qui ont été identifiées comme intéressantes sur le plan écologique, pour justement avoir leur accord, pour ensuite que le groupement puisse intervenir s'ils donnent leur accord pour ça.
Mm-hmm.
Et on encourage les gens, les propriétaires, à donner leur accord pour faire avancer la démarche, évidemment.
Mm-hmm. Notamment, ce sera le rôle des référents communaux d'aller vers ces propriétaires ciblés sur des secteurs connus et partagés, donc pour les inciter finalement à ouvrir leurs portes de grenier ou leurs portes de cave aux équipes naturalistes.
Pour vous, c'était important justement de vous impliquer dans ce projet ?
Oui, bien sûr, puisque j'étais concerné directement.
Et, oui.
Et puis, comme je fais partie du conseil municipal, et ça s'est présenté de manière presque naturelle.
Mm-hmm.
Voilà.
Donc, vous avez fait un constat quand même d'une diminution peut-être
Non, non, je ne suis pas spécialiste là-dedans, donc je ne sais pas quelle peut être la différence entre l'été et l'hiver.
Mm.
Et il est certain que à chaque fois que j'ai vu des chiroptères dans mes caves, je n'ai pas prêté attention à la saison à laquelle c'était. Quoi.
Mm-hmm.
Donc, les naturalistes sont certainement beaucoup plus observateurs que moi dans ce cas-là.
Mm-hmm. Alors on va donc parler des chauves-souris, puisque vous êtes spécialiste, Natacha, des chauves-souris. Alors quelques questions pour qu'on puisse un peu présenter cet animal. Donc la chauve-souris appartient à la famille des chiroptères. On peut expliquer ce que ça veut dire exactement ?
Oui, alors ça vient de chiros qui veut dire main, et ptère, aile ou vol, donc qui vole avec ses mains. En fait, la chauve-souris, donc, c'est le seul mammifère volant. Et quand on regarde le détail d'une aile de chauve-souris, on voit vraiment les 5 doigts de la main qui sont vraiment très, très allongés et qui sont reliés par une membrane de peau qu'on appelle le patagium et qui permet à la chauve-souris de voler.
Mmh. Alors, on dit justement, lorsqu'elles volent, parfois qu'elles volent avec leurs oreilles. Pourquoi est-ce qu'on dit ça?
Elles entendent ou elles voient même avec leurs oreilles. En fait, les chauves-souris, contrairement à ce qu'on peut penser, ne sont pas aveugles. Mais comme elles sont nocturnes, en fait, elles auraient une vision similaire à la nôtre. Donc, elles ne voient pas beaucoup la nuit. Et elles ont développé un sixième sens qu'on appelle l'écholocalisation, qui leur permet justement de se repérer dans le noir, de chasser les insectes. Donc, en fait, elles émettent des ultrasons qui rebondissent sur les obstacles, et c'est l'écho de ces sons qui leur reviennent à leurs oreilles, et ainsi elles se construisent une image mentale de leur environnement. Donc elles détectent vraiment le moindre moustique pour pouvoir l'attraper. Donc c'est vraiment un super sens.
On dit aussi qu'elles passent une partie de leur vie la tête en bas.
Oui, alors ça, pourquoi? Je pense que c'est quand on parle de l'hibernation,
ouais.
Quand elles sont vraiment en cavité, sous terre, la tête en bas à dormir. Là, c'est particulièrement un groupe qu'on appelle le groupe des rhinolophes, hein, qui sont vraiment accrochés par leurs pattes, la tête en bas, enveloppés dans leurs ailes même, celles qu'on voit le plus souvent. Après, il y en a d'autres qui vont se réfugier dans des fissures à plat ventre. Celles-là, on les voit beaucoup moins, donc effectivement, on en parle moins. Mais c'est aussi ce qu'on regardera dans les caves des particuliers. On regardera aussi dans toutes les petites fissures pour vraiment recenser le maximum de chiroptères.
Mm-hmm. Alors, on dit aussi, une des particularités, c'est que leurs ailes agissent comme un régulateur thermique. Ça, c'est une particularité quand même.
Oui, alors c'est vrai que, par exemple, quand elles sont en léthargie, qu'elles s'enveloppent dans leurs ailes, ça leur permet certainement de se protéger du froid et surtout de pas trop se déshydrater. Et le fait de battre leurs ailes, ça leur permet aussi en même temps de se refroidir pendant le vol.
Mm-hmm. Elles sont insectivores.
Oui, toutes les espèces françaises et européennes même sont insectivores.
Et elles ont un cycle biologique lié aux saisons.
C'est ça. Comme on disait tout à l'heure, en hiver, elles hibernent plutôt dans les caves. En été, une moitié d'espèces va vivre plutôt dans les bâtiments, donc à tirer profit des constructions humaines. D'autres vont vivre dans les arbres, donc dans toutes les cavités d'arbres qui peuvent exister. Et durant le printemps et l'automne, elles sont plutôt en transit. Donc elles vont se déplacer et changer régulièrement de gîte.
Alors combien est-ce qu'il y a d'espèces? Il y a beaucoup d'espèces de chauves-souris?
Alors dans le monde, on est à plus de 1400 espèces. Elles ne sont pas encore toutes recensées. On en découvre encore chaque année. En France, on a 35 espèces. Et puis en Indre-et-Loire, on en a 23.
D'accord, oui, c'est quand même pas mal. Il y a quand même d'espèces, c'est quand même assez riche sur le territoire.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas qu'une seule espèce de chauve-souris, on en a pas mal. Et puis là, la particularité de la Touraine, en fait, c'est d'avoir beaucoup de cavités souterraines, chose qu'on n'a pas forcément dans d'autres régions. Et donc, ça permet à beaucoup de chauves-souris d'hiberner.
Ah, c'est pour ça qu'il y en a peut-être plus qu'ailleurs.
Ça peut jouer. Il y a le fait aussi d'avoir un territoire assez boisé aussi, donc ça permet d'accueillir des espèces qui sont strictement arboricoles.
Mm-hmm. Vous questionnerez les charpentiers locaux et ils vous diront qu'à l'occasion de leurs travaux, notamment dans les combles, ils trouvent de nombreuses colonies de chiroptères.
Ah oui.
Oui. D'ailleurs, c'est un souci quand on décide de faire des travaux en plein été, qu'on va découvrir une toiture sans savoir qu'il y a une colonie de chauves-souris. Ça peut créer des dégâts, malheureusement, pour elles quand elles ont leurs petits. Et ça peut être fatal, en fait, pour la colonie. Donc nous, on est là aussi pour les accompagner et puis juste les informer, leur dire que là, actuellement, il y a un enjeu pour les chauves-souris, il faut juste attendre l'automne, enfin la fin de l'été, que la colonie reparte. C'est ça qu'il faut savoir en fait, elles ne sont pas là toute l'année, donc à la fin de l'été elles repartent et elles reviennent que l'été suivant.
Mm-hmm.
Donc il faut adapter aussi quand on peut les périodes de travaux.
C'est une question que je me permets de poser également, c'est-à-dire que dans nos combles, en hiver, nous n'avons pas de chauves-souris, elles retrouvent leur habitat cavernicole.
C'est ça, normalement. Après, il y a quelques exceptions. Quand les combles sont bien isolés, des fois, il y a les pipistrelles, par exemple, qui aiment bien hiberner en fait, dans la laine de verre, dans l'isolation. Donc là, il faut faire attention, c'est au cas par cas. Mais généralement, on a l'été vraiment les colonies dans les combles et l'hiver, elles vont aller dans les caves.
Alors, vous parliez de 23 espèces sur le territoire. Est-ce qu'il y a un constat qui a été fait d'une hausse du nombre de chauves-souris ou une baisse?
Elles sont toutes en régression, en moyenne, malheureusement. C'est aussi pour ça qu'on les étudie de plus en plus et qu'on essaye de les protéger au mieux. Il y a le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, en fait, qui a tiré des tendances avec des études acoustiques, justement, en France. Elles sont globalement toutes en diminution. On a notamment un enjeu en Indre-et-Loire sur la noctule commune, dont ces populations ont diminué en 10 ans de près de 88%.
Ah oui, c'est énorme.
C'est énorme, oui.
C'est dû à quoi ?
Il y a plusieurs facteurs. L'homme, malheureusement, justement, le fait de pas... En fait, on est mal informé, donc on ne va pas faire attention, on va rentrer dans une cave alors qu'elles sont en pleine hibernation. Ça peut être fatal aussi pour elles si elles se réveillent trop. Comme il n'y a plus d'insectes à manger, elles vont vraiment puiser dans leurs réserves. Et si l'hiver est froid, elles ne vont pas finir l'hiver, elles vont mourir avant. Le fait de faire des travaux dans son grenier alors qu'il y a une colonie, c'est pareil, ça peut tuer les jeunes. Il faut savoir qu'une femelle chauve-souris fait qu'un petit par an au mieux. Donc si le petit meurt, il faudra attendre l'année suivante qu'elle puisse se reproduire, en espérant que la femelle puisse passer l'hiver pour se reproduire l'année suivante. Mm-hmm. Après, il y a évidemment, comme elle mange des insectes, il y a l'histoire des insecticides, des pesticides, tout ce qui est produits chimiques. Malheureusement, on en utilise encore beaucoup, donc il y a de moins en moins d'insectes. Donc forcément, toutes les espèces qui sont insectivores diminuent avec elles.
Mmh. Alors justement, quels conseils on pourrait donner aux gens qui nous écoutent pour justement essayer de les préserver ? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle quand on a des chauves-souris chez soi ?
C'est vrai que tout le monde peut agir à son échelle. Mmh. Donc si vous avez des chauves-souris dans votre cave, évitez d'aller dans la cave trop souvent l'hiver. Même si vous voulez les accueillir, d'ailleurs, vous avez une cave qui est fermée avec une porte, vous pouvez faire juste une petite ouverture en haut de la porte pour les laisser y accéder. C'est pareil, s'il y a une colonie dans le grenier, c'est pareil, vraiment les laisser tranquilles quand elles sont là, ne pas les déranger et puis attendre qu'elles repartent. Après, c'est possible aussi de faire des aménagements. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez un grand jardin, vous pouvez créer une mare. Les mares, c'est super, ça attire plein d'insectes, c'est super pour toutes les espèces au final. Et les chauves-souris vont par exemple venir chasser les insectes et boire aussi de l'eau. Mm-hmm. Elles ont besoin de s'abreuver aussi. Tout ce qui est planter des haies, ça va faire des corridors de déplacement pour elles et pour les oiseaux et pour d'autres animaux. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Et puis... voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, même à son échelle. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à contacter les associations pour pouvoir accompagner ces personnes au mieux. C'est au cas par cas, en fait, en fonction de l'habitation.
Alors, c'est une espèce qui est protégée, je crois, depuis 1976.
C'est ça, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, oui.
Alors, qu'est-ce que ça engendre, justement ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, ça veut dire qu'elles sont protégées parce qu'elles sont en régression, donc elles vont mal. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un statut de protection mis sur ces espèces. C'est surtout ça ce que ça veut dire. Après, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on peut pas... elles ne sont pas chassées, par exemple. On ne peut pas les manger non plus. C'est interdit, évidemment, de leur faire du mal, de les détruire. C'est un statut légal. Après, voilà, si on est vraiment là plutôt comme rôle d'accompagnateur, de conseil, on n'est pas là pour faire la loi.
Oui.
Généralement, voilà, quand les gens ont une colonie de chauves-souris chez eux, ils nous contactent. S'il y a un problème de cohabitation, on est là vraiment pour les accompagner, pour trouver des solutions, pour que ça se passe bien pour les chauves-souris, mais aussi pour l'humain, évidemment.
Mm-hmm. Oui, un travail de sensibilisation.
Oui, un travail de sensibilisation, et puis on propose des aménagements à mettre en place, par exemple, s'il y a un problème de cohabitation. Je ne sais pas, s'il y a une colonie de chauves-souris dans un grenier et qu'il y a des travaux qui vont être faits, on peut essayer de voir s'il est possible de garder une petite partie du grenier pour les chauves-souris et puis de faire des chambres, par exemple, dans l'autre partie du grenier. Après, c'est pareil, c'est au cas par cas.
Mmh. Donc, pour en revenir à l'inventaire, vous pensez que ça va vous prendre combien de temps, donc, du coup, pour répertorier, en fait
Ça va être variable, ça va dépendre des réponses qu'on va avoir aussi des particuliers.
Oui.
Si on peut visiter plein de caves, évidemment, ça va prendre plus de temps, mais on aura plus de données.
Ça dépend de l'intérêt des sites. Et là, c'est une grande découverte, hein, parce que le premier niveau de travail était d'inventorier des sites, mais ça n'a pas été fait forcément par les spécialistes, hein, donc par des personnes comme vous et moi. Ce sera une totale découverte, peut-être bonne surprise, mais peut-être également d'autres sites qui seront beaucoup moins significatifs.
Oui.
Oui, chaque commune est différente, donc il y aura certainement des communes où on passera un peu plus de temps dessus, parce qu'il y aura plus de forêts, il y aura plus d'intérêt tout court que d'autres. Ce sera variable.
Donc d'où l'intérêt aussi hein, vraiment de mobiliser les gens du territoire, les habitants, pour leur dire faites-nous signe, on a besoin de vous en fait quelque part, hein, c'est ça, pour voir faire l'inventaire.
Tout à fait, puis leur expliquer la démarche, puis leur assurer qu'une chauve-souris n'est pas un animal qui fait peur, parce que c'est un animal qui, enfin une espèce qui jouit pas forcément d'une bonne réputation pour des raisons, voilà, sur lesquelles on ne va pas s'étendre ce soir, mais bon, les histoires, les représentations ont toujours fait que la chauve-souris était un animal nocturne, hein, donc oui. dans nos traditions, tout ce qui relève de la nuit fait peur, et finalement on s'aperçoit que la biodiversité également, et là où elle est en danger, c'est pour toutes ces espèces nocturnes, et d'où également un effort à entreprendre sur les pollutions lumineuses, oui. notamment, hein, notamment sur les corridors naturels. Là également, peut-être que ce sera l'occasion, en connaissant mieux cette espèce-là, de se dire qu'il y a également des efforts à faire en termes d'équipement, du moins de réflexion dans les collectivités. Là, ça s'adresse plus particulièrement aux élus, pour que finalement on ne perturbe pas ces espèces-là, et puis qu'on n'aille pas sur le tout lumière ou le trop lumière ou le trop long lumière, et puis qu'on fasse des efforts dans ce sens-là. Moi, je suis persuadé, c'est un engagement que nous avons pris sur la commune de Saint-Ouen-les-Vignes, donc, dont je suis maire, oui. et puis dont Olivier est habitant également, puisqu'il a souligné tout à l'heure qu'il faisait partie du conseil municipal. Donc je pense que là, il y a une réflexion, mais directement lié aux enjeux de biodiversité.
Tout à fait, oui, c'est tout l'enjeu de cet atlas, en fait, de la mise en place des résolutions, peut-être, qui peuvent être prises à l'issue de cet inventaire. Un mot pour terminer, vous voulez rajouter quelque chose ?
Eh bien, nous sommes très satisfaits que cet atlas puisse enfin débuter. Oui. C'est un long travail de réflexion. Mmh. Et puis, je pense sincèrement que nous avons trouvé la bonne formule avec le groupement des cinq associations qui ont été citées tout à l'heure. Mmh. Beaucoup de compétences, beaucoup d'envie. Et nous, de la curiosité, de l'attente sur notre territoire. Donc, c'est une belle démarche, une belle aventure à laquelle nous allons associer au maximum la population, tout public, tous les âges.
Mm-hmm. Puis un dernier mot, peut-être, pour ne pas hésiter à ouvrir sa porte, comme oui. vous l'avez fait, oui. pour pouvoir permettre justement cet inventaire.
Ben oui, bien sûr. Et moi, je vais faire partie des personnes qui vont aller voir d'autres habitants pour leur demander s'ils peuvent ouvrir leur cave ou leur grenier, etc. Mais là, c'est vrai que ce soir, j'ai appris des choses de la part de Natacha. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est sensibiliser les gens simplement avec quelques connaissances de base. Ça permettrait, à mon avis, que chacun puisse faire attention à ce qu'il fait, quoi, pendant... Ben, par exemple, de ne pas faire de travaux dans une toiture, etc. Faire attention à la lumière. Et c'est des gestes simples qui paraissent, à partir du moment où un maximum de la population et l'Atlas vise à ce but, où un maximum de la population est au courant, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose et à protéger toutes ces espèces.
Bien sûr, puisqu'en plus, ça favorise la rencontre, hein, finalement, entre les naturalistes et les habitants. Et du coup, parce qu'il y a souvent une malconnaissance de la biodiversité. Et donc, du coup, peut-être que la richesse de ce projet, c'est aussi de pouvoir se rencontrer, peut-être, oui. et d'expliquer les choses.
Oui, tout à fait. C'est vrai que souvent, ce qu'on n'aime pas, ce dont on a peur, c'est ce qu'on ne connaît pas.
Et bien sûr, oui.
Donc, rien qu'en échangeant avec des passionnés comme nous, en donnant 2-3 informations sur les chauves-souris, sur les autres animaux, souvent ça rassure, ça permet d'échanger, d'ouvrir le dialogue, et même c'est super de pouvoir être accompagné des propriétaires, de leur montrer ce qu'ils ont chez eux, vraiment la richesse faunistique et floristique qu'ils ont chez eux.
Mmh. Et puis du coup, de mieux, donc en l'occurrence là, on a découvert la chauve-souris, qui est un animal assez fascinant et qui n'est pas juste un animal qui s'accroche aux cheveux, n'est-ce pas,
puisque non, ça s'accroche pas du tout aux cheveux.
Voilà. J'ai pas de problème avec ça.
Autour de la table, il y en a au moins deux qui n'ont pas de problème avec ça.
Moi, j'ai tous mes cheveux encore.
Donc voilà, de mieux connaître en tout cas la biodiversité, les espèces. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois donc, d'avoir participé à cette première émission en lien avec l'Atlas de la biodiversité. Donc je vous rappelle que l'idée, c'est de partir à la découverte justement de la biodiversité et des espèces qui sont sur notre territoire. Et merci donc à Natacha de nous avoir fait découvrir la chauve-souris, parce que ce n'est pas forcément un des animaux les plus connus, en tout cas mal connus. Merci également Philippe Degnaud et merci Olivier Ferris d'être venu donc encourager les propriétaires aussi à venir ouvrir leurs portes et à créer la rencontre justement avec la LPO par exemple, mais ce sera aussi le cas avec d'autres associations qui participent à ce projet. Merci également à David Marion qui était à la technique. On se retrouve le 22 mars prochain pour une émission, la deuxième de ce cycle d'émissions, et vous pouvez bien sûr écouter celle-ci en podcast sur le site de Radioactive sur le www.radioactivefm.fr. Merci, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.